qui étaient à intercession en disant ah, bah, j'ai eu reçu telle parole. Et en fait, finalement, tous les mois qui ont suivi, en fait, cette parole continuait de frapper mon cœur. Et j'ai eu aussi l'occasion de prier pour certaines personnes qui sont chrétiennes et qui, en fait, ne sont pas du tout en paix avec Dieu. Et je me suis rendu compte, en fait, de l'absence de paix qu'il pouvait y avoir parmi le peuple de Dieu. Et donc, ça m'a alertée et ça m'a poussée à vous donner, en fait, à donner à toute l'Église cette parole et à prêcher sur cette parole. Et cette parole a été dite la semaine dernière. Thierry, en fait, il a supplié par rapport aux personnes qui venaient des barbecues. Il a dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et ce matin, Paul aussi, quand il a fait la Sainte Cène, quand il a apporté la Sainte Cène, on voit en fait que ben, là aussi, c'est une histoire de réconciliation avec Dieu. Et donc, on est exactement dans la même lignée depuis la semaine dernière. Et je crois vraiment que ce matin, je veux frapper nos cœurs par la parole, que Christ soit révélé parmi nous, soit révélé dans nos cœurs. Amen. Et ça concerne vraiment tout le monde. Ceux qui sont en approche et en découverte avec le Seigneur, et aussi nous qui sommes chrétiens, et peut-être certains depuis vraiment 10 ans, 20 ans, eh bien, ce matin, ça va être un rafraîchissement, comme Alex l'a dit, pour avoir la paix avec Dieu. Amen. Alors forcément, si on parle de réconciliation, quand le Saint-Esprit nous dit « soyez réconciliés avec Dieu », ça sous-entend qu'il s'est passé quelque chose avant. Parce que quand on parle de réconciliation, si on le prend à l'échelle humaine de nos relations humaines, si je dis que je me réconcilie par exemple avec Sandy, c'est qu'il y a eu quelque chose entre nous. C'est qu'il y a eu un litige, il y a eu on s'est pas entendu sur quelque chose. Si je me réconcilie avec mon mari, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et donc forcément, c'est qu'il y a eu, il y a eu de la colère, il y a eu une mésentente. Et en fait, c'est exactement pareil avec Dieu. Avec Dieu, on a besoin d'entrer en réconciliation parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est depuis la chute d'Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans le jardin et Dieu leur avait donné un ordre très précis. Ils pouvaient faire plein de choses, mais ils n'avaient pas le droit de manger le fruit de la connaissance. Et comme par hasard, ils ont fait ce qu'ils n'avaient pas droit de faire. Et ils ont mangé ce fruit défendu. Et à partir de ce moment-là, Dieu va dire à Adam et Ève qu'il les chasse du jardin, qu'il les chasse de sa présence. Et la parole de Dieu, dans Romains 3, verset 23, nous dit que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, à partir du péché originel d'Adam et Ève, comme ça a été dit ce matin, en fait, ce n'est pas avec nos œuvres, ce n'est pas parce qu'on fait, on se sent bien, intelligent ou d'une certaine condition sociale que nous pouvons accéder à Dieu. Le fait est, c'est que la porte a été fermée. Il y a un mur, vous pouvez imaginer un mur devant chacun d'entre nous, un mur a été érigé à cause du péché. Et notre nature est pécheresse, notre nature originelle, charnelle, est pécheresse. Et donc, à cause de cela, parce que finalement nous sommes rentrés sous la colère de Dieu, parce que à cause du péché, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu, nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un qui peut nous réconcilier avec un Dieu qui est saint, avec un Dieu qui est parfait. Et on parle vraiment de sainteté et de perfection. Et nous, ici-bas, on peut être très bien, on peut bien s'habiller, bien parler, on peut faire de très bonnes œuvres. Mais ce n'est pas ça qui va changer notre nature pécheresse et qui va nous donner la perfection et qui va nous donner la capacité de rentrer dans la présence de Dieu. Tout va bien jusque-là? Et donc, Paul va nous parler de cette réconciliation. On voit, il en parlait aux Colossiens, ça a été pris ce matin par Paul, mais ça, en fait, Paul va en parler plusieurs fois. Et il va en parler aussi aux Corinthiens, il va alerter l'église de Corinthe. On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. « Et donc Paul dira que tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes réconciliés uniquement au travers de Christ. Et la seule porte qui peut nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu, c'est Christ et Christ seul. Et c'est Christ qui a été fait, la parole de Dieu nous dit que Christ a été fait malédiction. Comme nous l'avons chanté ce matin, Christ sur la croix, les bras ouverts, c'est parce qu'il a été sur le bois pour lui qui était parfait, être malédiction pour toute l'humanité, afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe que nous étions tous comme des brebis égarées. On va tous sur des chemins différents, mais par Christ, nous sommes ramenés dans la présence de Dieu. Amen. Et nous allons prendre Jean 14, verset 6. Et souvent, en fait, on dit que comme tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à Dieu. On peut tous avoir notre idéologie, on peut tous avoir nos préceptes pour s'approcher de Dieu. Mais finalement, seul le chemin est Jésus. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que personne ne va au Père sans passer par moi. Tu peux, dans ta vie, essayer de t'approcher de Dieu de toutes les manières que tu veux. Tu peux faire toutes les œuvres, donner tout ton argent. Tu peux être le plus gentil possible, faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'acceptes pas Christ dans ton cœur, eh bien, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Et tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu parce que tu n'as pas cette nouvelle naissance. Le fait d'accepter le Seigneur comme notre, d'accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous avons ce que nous appelons la nouvelle naissance. Nous sommes nés non plus nous sommes nés non pas selon la chair, mais nous sommes nés selon l'Esprit. Amen. Je vous invite à prendre Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Donc Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Il est dit à tous ceux, certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, à tous ceux-là, donc à ceux qui croient en Jésus-Christ, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. C'est par la volonté de Dieu que nous sommes nés de nouveau. C'est par la puissance de son esprit. Et parce que nous sommes nés de nouveau, notre nature charnelle, pécheresse, peut être transformée. Et alors, nous pouvons enfin ouvrir cette porte et accéder dans la présence de Dieu. Amen. Jésus a commis l'acte ultime pour toute l'humanité entière, c'est de se donner, de se sacrifier pour nos vies. Et il est important de comprendre qu'aucune œuvre ici-bas ne pourra égaler ce que Jésus a fait. On va prendre l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 13. Et c'est important de rappeler dans nos cœurs que la réconciliation est uniquement au travers de Christ et de voir l'importance du sacrifice de Jésus. Il est dit que Christ est venu en tant que grand prêtre, donc c'est-à-dire en tant que sacrificateur, de donner sa vie, de se sacrifier pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs ou de veaux, mais son propre sang. Il a ainsi acquis un salut éternel. Imaginez ce matin Jésus qui va dans un sanctuaire, qui va dans un tabernacle qu'on ne peut même pas imaginer, qui ne ressemble même pas au tabernacle d'ici-bas. C'était qu'une copie, mais c'est encore différent là-haut. C'est encore différent dans les cieux. Et vous imaginez une pièce que personne n'était entré auparavant dans cette pièce. Personne. Il y avait la présence de Dieu et personne n'a pu aller dans cette pièce hormis Jésus. Jésus, lui, qui était parfait, qui était saint, qui était sans tache, qui est venu sur cette terre, qui s'est dépouillé de son trône de gloire, qui allait sur cette croix. Il s'est sacrifié pour nos vies. Il a été élevé, la parole de Dieu nous dit, il a été élevé à la droite du Père. Et quand il a été élevé, il a fait ça. Il a présenté son sang pour nous tous. Et lui, le premier, a pu entrer dans la présence de Dieu. Et il est parlé d'un salut éternel, d'une rédemption éternelle. Et notre réconciliation avec Dieu est une réconciliation qui est éternelle. Mais pour cela, il faut que nous acceptions Christ tous les jours de notre vie et jusqu'à notre dernier souffle. Et je voudrais attirer votre attention ce matin sur cette rédemption éternelle que nous avons, sur ce salut éternel. Il faut savoir que les plus grands hommes de la Bible avant la venue de Jésus, que ce soit Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes de l'Ancien Testament, aussi grands étaient-ils, aussi grands les miracles ont-ils pu faire pour l'Éternel, ils n'ont pas pu entrer dans la présence de Dieu à leur mort. Il a fallu attendre Jésus. Et la parole de Dieu nous parle de l'endroit où les personnes se trouvaient avant que Jésus ait fait son sacrifice et qu'il puisse être élevé à la droite du Père. Et on va prendre Luc 16, versets 19 à 23. Et avant que Jésus puisse pénétrer le tabernacle, tous ceux qui mouraient allaient dans le sein d'Abraham. Et là, il nous est parlé d'un homme riche. Et d'un homme et de Lazare qui était pauvre. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut. Et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Et on va s'arrêter là. L'homme riche qui n'a jamais reconnu Dieu dans sa vie est descendu dans le séjour des morts. L'homme pauvre qui, malgré sa condition, avait accepté Dieu dans sa vie, est descendu dans le sein d'Abraham, et donc il était avec Abraham. Et Jésus, quand il est mort, il est dit qu'il est resté 3 jours au tombeau. Et pendant ces 3 jours, il n'a pas juste attendu, couché, je vais me permettre, juste couché comme ça, et dire, bon, on a dit que c'était 3 jours, hein, Père. Alors, 1 jour. 2 jours. 3 jours, me revoilà. Non, l'Éternel, ce que Jésus a fait, c'est que pendant ce moment-là, il est descendu, la parole de Dieu nous dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. Il est allé déclarer à tous ceux qui étaient morts avant lui, il est allé dire, voilà moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, voilà mon sang que je vais porter auprès du Père, et maintenant vous allez pouvoir être emmenés avec moi dans les lieux célestes. Et ça, c'est la rédemption éternelle, c'est la réconciliation éternelle avec Dieu, c'est notre salut, c'est notre place dans les cieux avec Jésus. Jésus est entré le premier et maintenant nous pouvons tous suivre parce qu'il est le chemin, il a ouvert la porte, il nous a donné la clé. Amen. Le fait est, c'est que tout est une question, en fait, de foi. Parce qu'en fait, tout ça, tout ce que je viens de dire, tout est fait. Comme le Seigneur l'a dit, tout est accompli. Tout est immuable. Rien ne pourra changer ce que Jésus a fait. Cette rédemption éternelle, Satan peut s'acharner. Il peut prévoir tous des stratagèmes. Il peut échafauder, il peut mettre en place toute une stratégie. Mais il ne pourra jamais revenir sur ce que Jésus a fait. Il ne pourra jamais remettre en cause le sacrifice de Jésus et la rédemption éternelle. Amen. Mais la question ce matin que je vous pose, c'est est-ce que tu crois ? Est-ce que tu as la foi en le sacrifice de Jésus ? Est-ce que tu as la foi que c'est par Jésus seul que tu es sauvé et que tu peux être réconcilié avec le Père ? Et nous allons prendre Romains 5, versets 1 à 2. Et toute l'importance et la clé pour nous, c'est la foi. Dieu a tout accompli, Jésus a tout accompli. Mais nous, nous devons faire un choix chaque jour. Donc il est dit, parce que nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous trouvons désormais établi et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Notre gloire ici-bas, c'est d'être dans la présence de Dieu, que toute la présence de Dieu soit manifestée au travers de tout ce que Dieu a donné à l'Église, au travers des dons, des paroles prophétiques, des miracles, des prodiges, des temps de prière, des temps de jeûne. La présence de Dieu, c'est le partage de sa gloire parmi nous. Et nous avons la gloire céleste un jour où on demeurera éternellement dans la présence de Dieu, avec Jésus, avec Abraham, avec Moïse, avec Paul, avec Pierre, avec tous les apôtres, on sera tous ensemble dans la présence de Dieu. Mais tout est question de foi, c'est par la foi. Et finalement, on ne va pas se voiler la face ce matin, c'est que notre foi, elle peut être bien éprouvée sur la terre. Elle peut être bien éprouvée où nous passons par le feu. Et donc la question que je vous pose ce matin, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu des circonstances, des choses dans ta vie ou dans ma vie qui parfois viennent atténuer et viennent endurcir notre cœur ou enlever cette foi que nous avions avant? Et c'est pour ça que ce message s'adresse non seulement à des personnes qui découvrent le Seigneur, mais à chacun d'entre nous qui avons déjà accepté le Seigneur dans nos vies. Il y a des choses dans notre vie, dans nos vies, des événements qui peuvent venir altérer la foi que nous avons en Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais d'abord évoquer les épreuves. Et je pense que ce matin, si je demandais à chacun à l'église, lever la main, tous ceux qui sont déjà passés par les épreuves, je pense que tout le monde lèverait la main. Je pense que tout le monde fait l'objet d'épreuves dans sa vie. Mais le fait est, c'est que les épreuves peuvent faire naître en nous un sentiment de rejet. Les épreuves peuvent faire naître en nous un sentiment d'orphelin, comme si nous étions plus acceptés de Dieu. Et je sais ce que c'est, moi-même, je suis déjà passée par là. Je sais ce que c'est de souffrir au point de te demander si tu es encore l'enfant de Dieu. Et alors que Claude et moi, nous avions traversé un moment très difficile pendant l'année 2016, je me rappelle que j'étais chez moi et je me rappelais des prédications que j'avais faites. Et je me rappelais qu'un jour, j'avais prêché sur l'amour de Dieu, que l'amour n'a rien à voir avec l'amour ici-bas, ça ne dépend pas des cadeaux qu'on se fait, le cadeau est déjà fait, c'est Jésus. Et je me rappelais de tout ça, mais je disais quand même à Dieu, là, cette épreuve, elle est dure, elle est insurmontable. Et j'ai posé la question à Dieu, suis-je toujours ta fille ? Parce que j'étais, avant cette épreuve, j'avais l'assurance d'être la fille de Dieu. Et je le savais dans mon cœur, mais en plus c'était manifesté parce que j'étais comme en haut de la montagne. Je recevais beaucoup de paroles, je me sentais tout le temps remplie du Saint-Esprit. Et d'un coup l'épreuve est venue et là, silence radio. Et quand il y a des silences radio dans nos vies, la question qui vient, c'est est-ce que je suis toujours l'enfant de Dieu ? Est-ce que Dieu m'accepte ? Est-ce que je suis toujours aimée de lui ? Et c'était une question qui repassait dans mon cœur. Et je disais à Dieu, mais est-ce que je suis toujours ta fille ? Est-ce que tu m'acceptes toujours ? Et un matin, le dimanche matin, Dieu me parle beaucoup. Et un matin, c'est un dimanche matin, pareil, je me lève avec cette parole où le Seigneur me dit « Celui qui confesse mon nom reçoit mon esprit et reçoit mon esprit d'adoption. » Et ce matin-là, je savais que le Seigneur me disait « Élisabeth, oui, avec Claude, vous avez vécu quelque chose de dramatique et difficile, mais malgré cette épreuve eh bien, tu es toujours ma fille. Et Claude est toujours mon fils. Et cette épreuve ne conditionne pas l'adoption que j'ai avec toi. Ce qui conditionne notre adoption et notre lien de filiation avec le Seigneur, c'est notre confession. Le fait de confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et ce matin, je voudrais encourager toute personne qui est dans l'épreuve et où vous êtes passé par le feu. Eh bien, le Seigneur te dit ce matin que parce que tu le confesses, parce que tu confesses son nom et que tu continues de confesser son nom dans l'épreuve, alors il te dit tu es ma fille et tu es mon fils bien-aimé. Et tu es toujours accepté dans la présence de Dieu. Tu es toujours accepté dans la présence de Dieu. Et ce matin, des personnes, je suis convaincue que des personnes, vous devez saisir cela par la foi. Par la foi, au-delà de tout ce qui vient vous tourmenter à cause de l'épreuve, eh bien, vous devez saisir par la foi que parce que vous avez confessé le nom du Seigneur, vous êtes son enfant, vous êtes son fils, ou sa fille bien-aimée. Amen. Le fait est, c'est que l'épreuve ou les circonstances de la vie peuvent faire naître aussi beaucoup de pourquoi dans nos vies. Et je suppose que c'est pareil si je demandais à l'église ce matin, à chacun d'entre vous, si vous avez une réponse à toutes vos questions sur le pourquoi du comment il s'est passé cela dans notre vie, dans vos vies. Est-ce que vous avez toutes les réponses? Il y a des mystères. Il y a des mystères. Et vous savez, pendant ce temps d'épreuve, toujours au travers du don prophétique, au travers d'une sœur, Dieu savait que je me posais la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on traversait cela? Et Dieu, dans sa grande miséricorde et dans sa grande compassion, m'a dit cette parole-là au travers d'une sœur. Il m'a dit « Je ne te dirai jamais pourquoi. » C'est comme si tu me demandais de te révéler pourquoi j'ai ressuscité Jésus le troisième jour et pourquoi je ne l'ai pas ressuscité au deuxième jour. Et ça peut paraître cruel ou méchant, mais le jour où Dieu m'a dit ça, mon cœur, il a explosé en disant « Dieu me reparle ». Dieu me reparle et Dieu me disait « Tu dois accepter ma souveraineté et le mystère qui est ici-bas ». Et je sais que ce que je dis peut être cruel et peut être très dur à entendre. Et j'en suis vraiment consciente. Mais je sais que pour retrouver la paix avec Dieu au travers des épreuves et des deuils que nous pouvons traverser, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de dire à Dieu « Je t'abandonne mon pourquoi » et je fais le deuil du pourquoi. Et je le dis vraiment avec un énorme respect et avec beaucoup d'humilité parce que je sais qu'il y a des situations et des malheurs qui peuvent frapper les vies et où il y a plein de raisons de se poser beaucoup de pourquoi. Mais Dieu m'a dit clairement « Fais ton deuil, Elisabeth, du pourquoi, parce que je te le dirai jamais. » Et finalement, notre foi en Jésus-Christ, c'est non seulement avoir cette foi en son sacrifice, mais c'est la foi qui va augmenter, avoir foi jusqu'en sa souveraineté. Et c'est la foi en la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est ce qui nous demande le renoncement le plus total. C'est de se dire que même si je n'ai pas de réponse à mes pourquoi, j'accepte avec le temps et avec l'aide du Saint-Esprit à abandonner ce pourquoi et à dire « Ok Seigneur, j'accepte toute ta volonté et ta souveraineté. » Et vous savez, la Bible est renfermée de plein de mystères. Et je vais prendre juste un passage comme ça, c'est dans Acte 12, versets 1 et 2. En fait, là, il est parlé de Jacques, et Jacques, il a été tué par l'épée. Il a été enfermé, prisonnier, et il a été tué. Et ça, c'est le début de Acte 12. Et le fait est, c'est que quand on va plus loin dans Acte 12, on nous parle de Pierre. Pierre, lui, il a été libéré, il a été aussi emprisonné, mais lui, il a été libéré miraculeusement. Pourquoi ? Pourquoi Jacques meurt ? Pourquoi Pierre est libéré ? Ça fait partie des mystères de Dieu. Et personne ici-bas ne pourra nous donner la réponse. On le sera quand on sera là-haut. On aura toute la connaissance. Jacques, il est tué par l'épée. Et dans la suite de Actes 12, et on le prend beaucoup, on parle beaucoup de Pierre qui a été libéré miraculeusement de sa prison. Il est dit qu'un ange va venir et c'était tellement miraculeux qu'il se posait la question de savoir si c'était vrai ou pas, ou est-ce qu'il était en train de dormir. Lorsqu'on a arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous de bonnes gardes dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite, lui dit-il. » Au même instant, les chaînes tombèrent des poignets. « Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. Et on sait ensuite qu'il va être libéré. Jacques, lui, il n'a pas eu cet événement miraculeux. Et pourtant, je suis convaincue que l'Église priait tout autant pour Jacques que pour Pierre. Ou alors, si on prend Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus. Il y avait un lien de filiation, entre guillemets, même si Jésus, il est venu par la puissance de Dieu. Mais Jésus était le cousin de Jean-Baptiste. Et je ne sais pas si vous imaginez la mort de Jean-Baptiste, cousin de Jésus. Il va mourir juste parce qu'il y a une fête donnée par le roi Hérode. Et le roi va faire cette promesse à sa fille de dire « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donne. » Et sa fille, inspirée par sa maman, va dire « Demande-lui la tête de Jean-Baptiste. » Jésus, Jean-Baptiste, cousin de Jésus, va mourir parce qu'une femme voulait sa tête. Jésus n'était pas loin de Jean-Baptiste, il aurait pu envoyer une myriade d'anges. Et Jean-Baptiste était sauvé, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Ça reste un mystère et personne ici-bas ne le sera. Et je crois au miracle, et je crois au prodige, et je crois que nous pouvons vivre des délivrances comme Pierre a vécu. Mais je crois aussi que parfois, des personnes peuvent être reprises ou passent par des épreuves et où on n'aura jamais de réponse au pourquoi. Et l'Église, en tant qu'Église, nous devons apprendre à marcher dans cette souveraineté et dans cette foi et à laisser les pourquoi sans réponse et à ne pas essayer de donner des raisonnements humains qui viennent qu'affecter les cœurs. Notre foi peut être altérée également à cause de la culpabilité et de la condamnation qui peut rester dans nos cœurs par rapport à des péchés que nous avons commis avant de connaître le Seigneur ou tout en connaissant le Seigneur. Et ce matin, alors que je préparais ce message, j'avais vraiment à cœur de viser des choses très précises. Et ce matin, je suis convaincue qu'il y a des personnes parmi nous où vous avez donné votre cœur à l'Éternel, vous avez reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais quand vous étiez jeune, vous avez perdu votre virginité. Et ça, c'est quelque chose qui vous condamne, où vous faites plein de choses pour Dieu, mais vous savez que vous avez échoué sur ça et que vous avez donné votre corps à quelqu'un d'autre que votre époux. Et c'est quelque chose qui peut parfois revenir d'un coup. Et l'Éternel, ce matin, vous dit qu'il vous pardonne. Et c'est vraiment très précis, c'est vraiment une parole que j'avais sur mon cœur face à la perte de la virginité, avant le mariage. Eh bien, vous avez besoin d'entendre ce matin que l'Éternel vous pardonne et que vous n'avez plus à ressasser dans vos cœurs ce péché, ce qui s'est passé. J'avais aussi dans mon cœur des choix, en fait, que certaines personnes ont été amenées à prendre, mais pour sauver, quelque part, leur peau. Vous avez peut-être dû vous séparer de quelqu'un, d'un homme qui était violent, ou peut-être vous avez dû vous séparer de relations amicales parce que ces relations-là vous empoisonnaient. Mais quelque part, vous culpabilisez parce que vous dites que le fait est, c'est qu'elles ne peuvent plus entendre parler du Seigneur. Mais Dieu sait en fait que vous avez fait le bon choix. Et Dieu s'occupe de ces personnes-là. Et vous, en fait, vous avez eu raison de vous mettre à part et de briser des relations amicales ou des relations amoureuses pour suivre le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur veut vraiment donner la paix sur ces situations de vie, là où il y a eu des choix difficiles à faire et où parfois on est condamné par des choix. Et la condamnation peut venir tourmenter l'âme au point où, on peut se retrouver comme dans une mort spirituelle. Et ce matin, l'Éternel veut ramener à la vie. Il veut ramener à la vie, il veut briser tout joug de condamnation, tout joug de culpabilité. C'est brisé par le sacrifice de Jésus. C'est brisé par le sang de Jésus. Amen. On va prendre la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Et c'est vraiment une question de foi en la parole. Il est dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Et ce matin, il y a des personnes, vous devez saisir par la foi la parole, cette parole-là. Et vous devez faire le choix ce matin d'avoir foi en cette parole plus que d'avoir foi en vos propres pensées condamnatrices. Parfois, l'être humain, il est vraiment bancal. Hein. On cherche Dieu, on veut le trouver, on a toute la parole, mais est-ce qu'on laisse plus, on va laisser plus de place à nos propres pensées qui nous condamnent qu'à la justification que nous avons en Jésus-Christ, qu'au pardon que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est important de se rendre compte du pardon que nous avons en Jésus-Christ. Et Dieu est un Dieu qui est lent à la colère, qui est compatissant, qui ne retient pas à toujours nos fautes. Dieu nous pardonne et efface nos péchés. Et nous allons prendre, c'est l'histoire du roi Manassé, c'est 2 Chroniques, chapitre 33, versets 11 à 13. Et donc en fait, le peuple d'Israël un jour a demandé un roi, il y a eu toute une succession de rois. Et selon le roi qui était en place, soit le roi menait tout le peuple en fait dans l'obéissance de Dieu, soit le roi en fait n'en faisait qu'à sa tête, et c'était le désordre le plus total, c'était les dévotions à d'autres dieux, c'était des orgies, c'était les abominations, des choses abominables étaient faites devant l'Éternel. Et le roi Manassé, lui, il a fait des abominations devant l'Éternel, il a fait des choses horribles, et Dieu, il a commencé à se chauffer, et Manassé a vraiment cherché la colère de Dieu. Et donc, il est dit que l'Éternel a fait venir contre eux, donc contre Manassé et le peuple, les généraux du roi d'Assyrie, qui capturèrent Manassé. Ils lui mirent des crochets au nez, l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il le pria et l'Éternel l'exauça. Il écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi Manassé comprit que l'Éternel seul est Dieu. Et ça nous arrive de faire des mauvais choix, de pécher. Mais comme Manassé, Dieu est capable de tendre l'oreille et d'écouter nos supplications. Et dis-toi ce matin, et nous devons nous dire dans notre cœur, que si l'Éternel a été capable de pardonner Manassé pour toutes les abominations qu'il avait commises en tant que roi et il traînait tout le peuple avec lui dans les péchés, eh bien l'Éternel est capable de te pardonner ce matin pour tes péchés. Et comme il l'a fait pour Manassé, eh bien Manassé, il a eu le pardon de l'Éternel et l'Éternel lui a rendu son royaume. Il dit en fait qu'il le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé a compris qui était Dieu. Et nous, au travers de nos erreurs, de nos échecs, nous sommes capables, quand nous nous humilions devant l'Éternel, de comprendre qui est Dieu et de dire « Ok Dieu, j'ai compris. J'ai fauté, j'ai mal fait, j'ai compris quelle était la conséquence envers toi et maintenant je te demande vraiment pardon et je m'humilie. » Et bien Dieu dit ce matin « Ok. » Si tu humilies ton cœur, tu as humilié ton cœur, eh bien je te pardonne. Et Dieu n'est pas juste dans un petit pardon, c'est il rend tout. Il a rendu le royaume à Manassé. Et ce matin, j'ai envie de dire à des hommes et des femmes que Dieu vous donne tout. Et que s'il y avait un appel sur votre vie, eh bien Dieu vous le rend. Et Dieu ne donne pas qu'à moitié, il ne rend pas à moitié. Dieu ne pardonne pas à moitié. Dieu, il pardonne complètement. Il y a des hommes et des femmes, vous êtes appelés à servir de nouveau l'Éternel. Mais pour cela, vous avez besoin de retrouver la paix en considérant que Dieu vous redonne tout. Amen. Je finirai par là, c'est le légalisme. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas faire tout un enseignement sur le légalisme. Mais je pense que c'est une alerte que nous devons aussi toujours avoir en tant que peuple de Dieu. Parce que le légalisme, en fait, nous dévie de la foi que nous pouvons et que nous devons avoir en Jésus-Christ. Et le légalisme, c'est de retourner dans toutes les œuvres et de chercher à appliquer les préceptes de la loi qui n'ont pas été répétés et redonnés par Jésus lui-même dans les évangiles. Et le problème, c'est que le légalisme, eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 5, versets 4 à 5, que si en fait nous tombons sous le coup de la loi, et il est dit, vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance est d'être déclarés juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Et parfois, en fait, quand on sert Dieu, quand on fait beaucoup d'œuvres, et ben pour Dieu, on peut oublier en fait que notre réconciliation et notre justification n'est pas en ce que nous faisons, mais elle est uniquement en le fait que nous avons confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen. Et c'est important, parce que parfois on peut se fatiguer en disant « je fais telle œuvre, je fais ça », et les œuvres sont bonnes, les œuvres sont le fruit de la foi, mais les œuvres ne nous justifient pas devant l'Éternel. Et la loi ne nous justifie pas devant l'Éternel. La loi n'était pas assez bonne, assez puissante pour nous donner la perfection devant l'Éternel. Seul le sang de Jésus et notre foi en le sang de Jésus peut nous donner la justification devant Dieu et la réconciliation et la paix avec l'Éternel. Et c'est important de rester vigilant par rapport au légalisme parce que Paul dira aux Galates, il dira « Vous avez démarré par la foi et qui vous a arrêté en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es tombé dans le légalisme? Pourquoi tu as décidé de nourrir les œuvres, de prendre les œuvres comme justification plutôt que de continuer à avoir foi? Et ce matin, Dieu veut nous rappeler que nous ne devons pas oublier que tout est une question de foi en son sacrifice. Tout est une question de foi en Christ. Amen. Et ce matin, on a vraiment ce choix à faire. On a ce choix dans nos cœurs à faire ce matin et jour après jour de décider si nous allons croire en la parole de Dieu, si nous allons croire en le sacrifice de Jésus ou si nous allons continuer à croire nos pensées qui nous condamnent, nos pensées qui nous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que nous allons accepter de considérer pleinement tout le pardon que Dieu a pour nos vies? Ou est-ce qu'on croit que Dieu nous a pardonné partiellement? Ce matin, on a un choix à faire pour chacun d'entre nous. Et je demandais à l'équipe de louanges de revenir, à Antonia et l'équipe de louanges de revenir, et je veux vraiment que nous prenions un temps ce matin sur le fait de sonder nos cœurs, de sonder nos cœurs devant l'Éternel. Et peut-être que tu es tourmenté par des accusations que Satan vient comme ça constamment te murmurer. Et si tu es tourmenté ce matin, on va prier pour que tu puisses recevoir une pleine délivrance. Et ce matin, si tu as besoin de répandre ton cœur et de pleurer devant l'Éternel, eh bien j'ai envie de te dire, je vais pleurer avec toi. Je vais t'aider à aller devant le Seigneur et à répandre ton cœur. Ce matin, peut-être que tu es passé par des deuils et par des circonstances de vie où il y a eu des pourquoi qui t'ont tourmenté et qui te tourmentent encore. Et ce matin, eh bien, je veux déclarer sur ta vie la consolation, la guérison et la paix avec le Seigneur. Je vais vous demander de vous lever. Et avant que les gens s'avancent, on va faire aussi quelque chose de symbolique que j'avais vraiment à cœur. On va tendre les bras vers Dieu. Et le fait de tendre les bras vers Dieu, c'est le fait, quand on fait ça, c'est comme quand on reçoit un cadeau. Quand on reçoit un cadeau, on fait comme ça. Là, on reçoit Jésus. Et ce matin, le fait que l'on lève les mains tous ensemble, on dit à Christ, « Ok, on te reçoit encore ce matin, individuellement, mais aussi collectivement. En tant qu'Église, nous sommes justifiés par toi. En tant qu'Église, en tant que corps, en tant que personne, nous sommes lavés et justifiés par le sang de Jésus. Et ce matin, nos mains levées vers toi, Seigneur, c'est notre foi. C'est notre foi tous ensemble en ta parole. C'est notre foi tous ensemble en ton sacrifice qui nous a sauvés de la mort et qui nous donne une rédemption éternelle. C'est notre foi ce matin que nous manifestons pour recevoir la consolation face au deuil, face aux épreuves de la vie. C'est notre foi en ta souveraineté. C'est notre foi en toi, Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Je vais laisser l'équipe de louanges prendre un chant, le chant que vous avez sur votre cœur, je vous laisse libre. Et je vais demander maintenant à toutes les personnes qui ont besoin de prière, qui ont besoin de répandre, ou vous avez besoin de répandre votre cœur devant l'Éternel, eh bien approchez-vous ce matin et on va prier ensemble pour que la consolation vienne, que la délivrance vienne. Parce que je crois que ce matin, c'est un jour de délivrance pour les cœurs. C'est un jour encore de rédemption. Et si aussi tu es à la découverte du Seigneur et que tu veux donner ta vie ce matin au Seigneur, que tu veux le reconnaître comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, eh bien approche-toi aussi ce matin. Si c'est dans ton cœur, tu sais et tu confesses cela, approche-toi et on va prier pour toi.